On va ce soir essayer de démêler une affaire dite l'affaire Céline, l'écrivain collabo, l'écrivain antisémite, qui prétend à la fin de la guerre, alors qu'il fuit vers l'Allemagne, qu'on l'a dépouillé, qu'on a vidé son appartement et que des manuscrits ont disparu. Avait-il vraiment disparu? Pas du tout. C'est ce que nous raconte Jean-Pierre Thibaudat.
La première, le fin mot, Eddy Kakelbergs.
Pour conduire les peuples, il faut avouer que depuis le commencement du monde, on n'a jamais eu le prestige que de la guerre qu'on vient de gagner et le prestige de celle qu'on va gagner. Et c'est tout. Par conséquent, nous avions le prestige d'avoir gagné la guerre 18. Il fallait conserver ce prestige à toute force. N'importe quel moment, ne pas le mettre en péril. Ne pas le mettre sur la table, ce prestige, n'est-ce pas? C'est ça que je voyais. C'est là que je voyais l'armée allemande utile, le gendarme allemand. C'était simplement ça. Je me suis peut-être trompé, mais je ne demande pas mieux.
On pourrait quand même s'étonner d'une chose, M. Céline, c'est qu'au moment où les puissances de l'Axe ont commencé de ne plus avoir le vent en poupe, vous ayez persévéré. Expliquez-moi un peu cela.
Monsieur, je n'ai jamais persévéré à rien de ces affaires politiques. Non, du tout. Je n'ai jamais collaboré à aucun journal, ni donné des interviews, ni parlé à la presse, ni voté, ni fait partie d'un parti. Je suis absolument strictement indépendant et je m'élevais simplement comme écrivain. Je croyais dans ma vanité pouvoir influencer qui que ce soit en faveur de la paix. Bon, c'est tout, strictement tout, n'est-ce pas? Jamais je n'ai touché rien, pas un sou de personne, ni américain, ni anglais, ni allemand, ni suisse, ni rien du tout. Donc je n'ai vécu que de mes droits d'auteur, et très misérablement. Et c'est tout. Quand ils ont persisté, ou pas persisté, après Stalingrad, disons le mot, il y a eu des virages byzantins, n'est-ce pas? Tout le monde s'est accroché, est devenu anti-allemand. Bon, je n'avais pas à être ni anti-allemand, ni anti-ceci. Pendant toute la guerre, les Allemands sont venus me voir et m'ont toujours dit, nous allons gagner, nous avons la victoire. Mais je dis, donnez-moi des preuves, quelque chose, je ne vois pas du tout. Et ils m'ont jamais apporté de preuves, la preuve, c'est ce qu'ils ont perdu. Je n'ai jamais voulu que la paix, n'est-ce pas? Quand ils sont entrés en France, je n'étais pas partisan, je n'ai jamais dit « Hurrah, vive les Boches !» Ça m'amusait pas, comme les autres. Ils ont été assez stupides, Hitler en particulier, pour ne pas faire la paix à temps, de même que nous avons fait la paix trop tard en 18, nous aurions dû la faire en 15 ou en 16, de même eux, se sont acharnés, ou plutôt Hitler s'est acharné dans les batailles qui étaient la fin de l'Allemagne, n'est-ce pas? Toujours dans ce principe absurde de guerre, n'est-ce pas? Tout est là, n'est-ce pas? Moi, je n'ai rien à me repentir de rien du tout. Je n'ai jamais été partisan de ceci, cela. J'étais partisan de l'armée allemande parce qu'elle maintenait la paix en Europe, en France en particulier, et a conservé ses colonies. Ouais. Mais c'est tout. Qu'on prouve le contraire, c'est tout ce que je vois.
Bonsoir Jean-Pierre Thibaudat.
Bonsoir.
Louis-Ferdinand Céline avait déjà fait couler beaucoup d'encre, on y reviendra, sur sa personnalité, sur son antisémitisme virulent, sur la collaboration, sur les qualités de son écriture. Par contre, il en refait beaucoup couler, évidemment, depuis 2 ans, depuis que l'on sait que les manuscrits qui étaient censés être perdus ne le sont pas, et qu'ils étaient chez vous.
Absolument. Oui, ils étaient chez moi.
Chez vous, mais c'est pas vous qui, en 1944, les subtilisez pendant que lui est enfoui vers l'Allemagne.
Non, ce n'est pas moi, puisque je n'étais pas né en 1944. Ce sont des personnes qui les ont récupérées et j'ai mis un certain temps volontairement à donner l'identité de la personne. Et en l'occurrence, je l'ai fait ces derniers mois, en accord avec les héritiers de cette personne. C'était un grand résistant qui était Yvon Moranda, qui, quelque temps après la libération de Paris, où il a participé activement, puisqu'avec son épouse, sa future épouse, ils ont libéré l'hôtel Matignon à Paris et donc ils ont habité l'appartement de Céline, que Céline avait délaissé le 17 juin 1944 pour partir précipitamment en Allemagne, et de l'Allemagne plus tard il rejoindra le Danemark. Et donc l'appartement a été réquisitionné par la résistance et c'est Yvon Moranda qui a occupé cet appartement de Montmartre, dans un petit quartier de Montmartre, et qui l'a occupé un certain temps.
Ça veut dire quoi? Que l'appartement avait été considéré comme réquisitionnable dès lors que Céline était mis en accusation?
Oui, s'il est parti, c'est qu'il savait qu'il serait arrêté, qu'il serait inquiété, qu'il avait même peur d'être fusillé comme le sera Brasillac, ou assassiné comme le sera son éditeur de Noël. Donc il avait quand même un besoin urgent de partir, et d'ailleurs il est quand même parti précipitamment. C'est aussi pour ça qu'il a laissé beaucoup de choses dans son appartement, sinon il aurait pu en emporter beaucoup plus ou les confier à des amis. Enfin, il est parti quand même très vite.
Qu'est-ce qui pousse Yvon Moranda à faire main basse sur les écrits de Céline, on devine, mais à les garder par-devers lui sans en parler?
C'est-à-dire que lui, il est dans cet appartement, il faut quand même se plonger dans l'époque de la libération de Paris et tout ça. Donc il met les meubles au garde-meubles, il met les documents dans une caisse, dans une malle, et puis il va prévenir Céline quelques années plus tard, quand Céline sera au Danemark et qu'il annoncera son retour à Paris. D'une part, il fera savoir via son avocat, et tout ça se passe à travers des avocats, il fera savoir qu'il a déposé les meubles au garde-meubles et qu'il a des documents. Et Céline refusera de payer les frais de garde des meubles en disant « faites-en ce que vous voulez ». Et puis les documents, il les refusera également puisqu'il dira « ce sont des brouillons, tout ça, ça n'a aucune importance ». Et il refusera également de les récupérer. Il y a des lettres entre avocats qui prouvent tout cela.
Quand donc Céline dit « ils m'ont rien laissé, pas un mouchoir, pas une chaise, pas un manuscrit », non seulement il ment, parce qu'il sait que donc les choses ont subsisté à sa disparition, mais il les refuse.
Mais c'est-à-dire qu'il se met dans une position de victime, position qu'il a régulièrement dans ses lettres qu'on peut lire. Il se pose en victime. Et pour lui, les résistants n'existent pas. Pour lui, il appelle ça des épurateurs. Le mot résistant n'existe pas dans sa bouche ni dans ses écrits. Il parle d'épurateur. Et pour lui, Moranda est un épurateur. Donc c'est un ennemi, c'est quelqu'un de vil. Il ne veut pas considérer ces personnes-là.
Lorsque, au début des années 80, vous êtes journaliste à Libération, Jean-Pierre Thibaudat, et que votre ami Gilles Cartman vient vous dire « j'ai des choses que je voudrais te montrer et te confier à ton étude », vous le prenez pour un fou ?
Je le pense que comme c'est un ami, je me dis bon, il doit être un peu fantasque et tout, mais jusqu'au moment où il m'entraîne chez ses amis, Caroline Moranda et son mari avec lequel il avait partagé ses études, et là je vois les documents et je me rends compte très vite que ce sont des authentiques documents et non pas des papiers qui n'ont pas beaucoup d'importance. Je me rends compte, comme ce sont des manuscrits, que c'est quand même important. Je ne sais pas, bien sûr, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est simplement, c'est une caisse où il y a des manuscrits et puis des objets, des lettres, des journaux. Voilà, il y a tout ça qui a été réuni dans une caisse.
Mais est-ce que les héritiers d'Yvon Moranda, donc, que vous rencontrez à ce moment-là, vous disent ce dont il s'agit?
Eux ignoraient qu'il y avait de tout cela. C'est-à-dire que cette caisse, c'est ça qui est complètement incroyable comme histoire, c'est que quand Moranda a quitté l'appartement et que Céline n'avait pas voulu céder comme eux, il les a emportés. Ils ont mis ça dans une cave. Et puis les années ont passé. Yvon Moranda est mort relativement jeune. Et puis un jour, quand sa fille accouche d'un enfant et qu'ils vont chercher un berceau à la cave, à ce moment-là, en descendant dans cette cave où il n'allait sans doute jamais, comme souvent dans les caves, on n'y va pas tous les jours, il voit cette caisse. Ils remontent cette caisse, à ce moment-là, ils s'aperçoivent que c'est quelque chose d'important. Et en même temps, ils ne veulent pas y toucher, ça leur brûle des doigts. Ils veulent s'en débarrasser d'une certaine façon. Et c'est à ce moment-là que, via le contact entre eux et mon épouse et moi, on se retrouve, par le lien de l'amitié, à aller dans cet appartement. Je me retrouve dans cet appartement de Caroline Moranda, j'ouvre la caisse avec eux, et là je vois qu'il y a des choses, on ne sait pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est... Il ne faut pas perdre, c'est des papiers qui appartiennent à des grands écrivains du XXe siècle, quelle que soit la personne.
Alors, et comment se rendre compte immédiatement qu'il s'agit du Céline? C'était quoi? C'était marqué en toutes lettres?
C'est pas marqué en toutes lettres, mais on le voit, il y a des lettres avec des enveloppes où c'est marqué Céline, etc. Louis-Ferdinand Céline ou Destouches. Vous voyez, il y a tout ça, donc ça paraît évident. Voilà.
Vous travaillez vous-même à ce moment-là dans un quotidien, Libération, qui est... notoirement à gauche. Mettre les mains dans les papiers d'un antisémite notoire et collabo, ça vous donne quoi? Un haut-le-cœur? Un oulala, j'ai le trésor?
Vous savez, mes parents étaient tous les deux des résistants. Je n'avais aucune sympathie pour ce genre de personnage, et moi non plus. C'est sûr que la personne Céline est abjecte, mais l'écrivain est un grand écrivain. Un des grands écrivains du XXe siècle, ça ne fait aucun doute. Et dans cette caisse, je vois tout de suite qu'il y a, puisque je vois tout de suite un passage de Mort à crédit, par exemple. Vous voyez, je me rends compte qu'il y a des manuscrits qui appartiennent à des œuvres littéraires. Voilà. Et c'est à partir du moment où on scelle ce pacte entre Gilles, Caroline Moranda et moi, je récupère tous ces documents et on décide de ne pas en parler.
Pourquoi ?
De ne pas révéler d'où ça vient. Parce que je pense que Caroline avait peur que tout cela produise des choses, disons, nocives par rapport à la mémoire de son père. Vous voyez, ça je comprends. Et je comprends complètement ça.
Quoi, on aurait soupçonné son père d'avoir spolié Céline ?
Oui, pas d'avoir spolié Céline, mais enfin d'avoir gardé ça par de faire lui, vous voyez, alors que lui n'avait qu'une envie, la suite l'a prouvé, c'était de les rendre à Céline, qu'il n'en a pas voulu.
Pourquoi d'ailleurs quelqu'un comme Yvon Moranda se dit « ça doit revenir à Céline » alors qu'on est dans une pleine période d'épuration, une pleine période où il faut mettre en lumière les collabos? Pourquoi est-ce qu'il n'apporte pas ça comme preuve à charge finalement? Parce qu'il y a là-dedans des inédits, pour certains, ils ne sont pas des
bluettes. Je pense qu'ils n'ont pas regardé ce qu'il y avait dedans. Oui, mais je pense qu'ils n'ont jamais regardé ce qu'il y avait dedans.
Ils savent qu'ils habitent chez Céline, mais ils n'ont pas la curiosité de savoir ce qu'ils entassent.
Visiblement, ils n'ont jamais regardé ce qu'il y avait. Ils ont entassé tout ça, d'ailleurs dans le désordre le plus absolu. Ils ont mis un couvercle et c'était fini. Et ils voulaient rendre tout ça. Et Céline n'en a pas vu. Ils ont eu quand même l'intelligence de se dire c'est une chose écrite, ça appartient à un grand écrivain. On va garder tout ça, même s'il n'avait aucune amitié pour l'homme, Céline, et collaborateur qu'il a été et antisémite qu'il était.
On revient évidemment au moment de votre découverte, c'est il y a quoi, plus de 30 ans, près de 40 ?
C'était en 82,
ouais,
le printemps.
30 ans, il y a 40 ans. Que faites-vous ? Vous emportez la caisse sous le bras en disant « je vais étudier tout ça » ?
Absolument. Oui, j'emporte la caisse. D'ailleurs, je travaille à plein temps à Libération à l'époque. Hein, donc, je ne peux pas passer 24 heures sur 24 à fouiller dans cette caisse et tout. Je le fais dans des moments de vacances. Vous voyez, l'époque est quand même très intense à Libération à cette époque-là. Et je mets dans un premier temps, je mets ça plusieurs mois avant de classer toutes les choses. Vous voyez, c'était pas sans doute dans des histoires de transport ou d'une cave à l'autre. Voilà. C'était même complètement mélangé. Donc j'ai mis un temps fou à comprendre ce qu'il y avait dedans et à comprendre finalement qu'il y avait dedans des choses qu'on ne connaissait pas de Céline.
Ce qu'il faut aussi que l'on éclaire, c'est la conditionnalité, ne rien publier de tout cela avant la mort de la veuve de Céline. Pourquoi ?
L'héritier de Moranda ne voulait pas que ça soit dispersé, que des choses soient cachées, par exemple. Il y a des notes totalement antisémites dans cette caisse, qui évidemment, là, pour l'instant, les héritiers qui ont récupéré tout ça n'en parlent pas, bien sûr. Mais il ne voulait pas que ce soit trié par les héritiers, et puis il ne voulait pas entendre parler de la veuve de Céline, de la famille Céline. Il ne voulait pas que ça revienne à la famille Céline du vivant de sa veuve. Par rapport à toutes ces années de guerre, d'un côté eux les résistants, de l'autre les collaborateurs. Vous voyez, je comprends ça complètement. En tant que résistant, on n'a aucune envie de faire des cadeaux à des collaborateurs, surtout que
elle aurait pu
Céline
faire de l'or.
Avait refusé les choses. Ouais. Céline avait refusé de prendre tout ça.
Mais elle aurait pu se faire de l'or, la veuve de Céline, en publiant.
Oui, et c'est sans doute pour ça qu'il ne souhaitait pas. En tout cas, c'était le pacte, c'était de ne pas donner ça à la veuve Céline, des pactes que j'ai totalement compris et respectés.
Alors par contre, il y a d'autres héritiers. C'est les héritiers de Céline et de sa veuve. Et là, ceux-là ne vous font pas de cadeau.
Non, alors, pas du tout. Puisque, donc, quand Lucette Destouches meurt...
Là, vous êtes libéré du pacte, alors.
Je suis libéré du pacte. Donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je prends contact avec un avocat, Maître Pierra, qui est un grand spécialiste des droits d'auteur et qui est par ailleurs l'avocat de l'IMEC. Et moi, mon rêve, je dirais naïf, vous voyez, ça aurait été de donner tous ces documents à l'IMEC, l'Institut de la mémoire de l'édition contemporaine, qui est un des endroits en France où il y a un fonds Céline. Il y a un autre fonds à la Bibliothèque nationale et le deuxième fonds, c'est à l'IMEC. Et moi, ayant été travailler à l'IMEC sur différentes archives, j'avais trouvé que c'est un endroit formidable de travail pour les chercheurs, pour les journalistes, merveilleux, qui avait un fonds Céline, qu'il était parfaitement bien tenu. Et je me suis dit, voilà, naïvement, je me disais, ça serait formidable que tout ça aille là-bas. Et c'est ce que je dis aux héritiers quand je les rencontre dans le bureau de Maître Pierra. Je leur dis ça. Je leur dis, voilà, il y a tout ça dans cette caisse. Je leur montre une liste. Je leur dis, voilà, il y a tout ça dans la caisse et ça serait extraordinaire que tout ça aille dans un fonds public, la Bibliothèque nationale ou l'IMEC. Mmh. Et là, silence radio. On ne répond pas.
Pourquoi ?
La réponse, elle viendra quelques mois plus tard avec une accusation de recel.
Recel de documents spoliés, on va le dire comme ça, ou volés.
Spoliés.
Ouais.
Spoliés, ça n'a pas été volé. Si ça avait été volé, si on vole quelque chose, c'est après pour en faire le commerce, le revendre. Jamais ça a été le cas. Jamais.
Alors, à partir de ce moment-là, les héritiers en réclament la propriété.
Oui.
Et elle leur revient.
Oui.
Comment faites-vous cette course contre la montre pour à la fois... Mais ma foi, leur restituer, sachant qu'ils vont sans doute, effectivement, c'est le cas, n'en publier que les extraits favorables, et pour vous-même pouvoir ensuite raconter l'affaire sans être accusé d'utiliser des documents qui ne vous appartiennent pas.
Alors, moi, comme il y a l'accusation de recel, si vous voulez, la police me contacte en me disant, voilà, vous êtes accusé de recel, donc vous êtes convoqué demain matin, ou vous venez avec les documents et tout se passera bien, ou vous venez les mains dans les poches et vous serez inculpé. Alors évidemment, ça va de soi, je suis venu avec tous les documents à la police des littéraires qui se trouve à Nanterre, et je suis arrivé avec deux énormes sacs qui contenaient toutes les archives. Et quand il y a une scène un peu ubuesque, quand j'arrive à Nanterre, le fichier de police me montre un papier en disant « je veux ça ». Et la feuille, c'est celle que j'avais écrite, que j'avais présentée aux héritiers. Donc je lui ris au nez en disant « vous savez, cette feuille, c'est moi qui l'ai écrite, donc je sais parfaitement ce qu'il y a sur cette feuille et tout ce qu'il y a sur cette feuille est dans ces deux gros sacs que je vous ai apportés ». Et là, les policiers se mettent à cinq autour d'une table à compter toutes ces archives que j'avais classées, évidemment très bien classées. Donc, c'était facile pour eux de compter feuille à feuille tout ce qu'il y avait dans ces deux gros cercles.
Dans la mesure où ils récupèrent, la propriété, qu'est-ce que vous vous dites? Je dois publier l'histoire pour qu'ils ne mentent pas?
Oui, je pense que c'était important de raconter tout ça, parce qu'il y a eu une sorte d'occultation de cette histoire. Mmh. Donc, il fallait la rendre publique. Et c'est pour ça que, très vite, mon avocat, on décide de rendre tout ça public. À partir du moment où ils avaient tout récupéré, fin juillet 2021, et donc début août 2021, on publie cette enquête via un journaliste dans le Monde qui raconte toute cette histoire.
Alors, cela dit, votre livre va, lui, être publié une semaine après la publication par eux de Londres. Et vous décrivez d'ailleurs ce manuscrit-là longuement. Vous venez après pour ne pas avoir été précisément accusé d'avoir utilisé des documents subtilisés ?
Oui, évidemment, ils m'ont fait savoir que si je publiais moi-même des inédits, ils feraient une action en justice, etc., etc. Donc, toute l'histoire m'appartient. Donc, ça, je pouvais parfaitement la publier. Mais à partir du moment où je parlais de manuscrits, c'était plus simple de parler des manuscrits déjà publiés et plus globalement des manuscrits qui n'étaient pas encore publiés.
Dans cette mesure-là, vous vous opposez en quelque sorte aussi aux éditeurs que les héritiers ont choisis pour sortir, notamment ce Londres, dans la mesure où vous dites leur transcription, la transcription publiée n'est pas exacte.
C'est pas seulement la transcription, c'est-à-dire que je pense que Guerre tel qu'il a été publié, et d'ailleurs plusieurs spécialistes sont d'accord avec moi, c'est une opération éditoriale. Pourquoi on enlève les trois premiers mots de Guerre ? pourquoi, quelques lignes plus loin, on enlève toute une description où on parle de noirceur sur le lys qui fait penser au voyage au bout de la nuit. Pourquoi ils font ça? Pourquoi, d'un côté, il y a un chapitre qui est numéroté 10 et que les autres sont numérotés 1, 2, 3, 4, 5, enfin 1, 2, 2 et demi, bis et 3, 4, voilà. Pourquoi ils réunissent tout ça en un seul bloc alors que ça ne fait pas un bloc? Et pourquoi ils enlèvent pas tout à fait les trois premiers mots, parce qu'avant, il y avait des choses qui précédaient et qui ne sont pas là, et eux présentent ça comme une œuvre à part entière, ce qui est une escroquerie.
Le but, c'est le but du lucre ou c'est le but toujours de trafiquer la dinant des touches, dit Céline?
Là, pour le coup, c'est un but commercial, hein, c'est, ça me semble évident.
Vous dites aussi, attention, c'est une course contre la montre. Bientôt, l'œuvre de Céline sera dans le domaine public.
Oui, dans 9 ans, Céline sera dans le domaine public en France. Il l'est déjà au Canada, par exemple. Il est dans le domaine public au Canada, selon les législations sont différentes. D'ailleurs, je crois qu'en Belgique, c'est aussi une autre législation. Donc, vous voyez, donc il y a une course quand on a de la part de l'éditeur, de Gallimard, ce qui est normal, et des héritiers. Je comprends très bien qu'ils aient très envie de publier tout ça très vite, parce qu'il reste encore des inédits à publier.
Qui ont été authentifiés.
Oui, enfin, quand les manuscrits ont été donnés aux héritiers, la première question, c'était est-ce que c'est vraiment des manuscrits de Céline ? Donc, deux personnes de la Bibliothèque nationale ont eu accès aux manuscrits et ont authentifié le fait que c'était bien des manuscrits de Céline et non pas des copistes qui auraient imité l'écriture et le style de Céline.
Alors, cette bombe littéraire, en quelque sorte, que vous nous avez révélée et rapportée, est-ce qu'elle sera intégralement publiée un jour ou est-ce que vous craignez au contraire que, effectivement, les morceaux choisis et difficiles soient occultés ?
Ben, moi, je crois que surtout, c'est que tout ça va être dispersé.
Vous avez une copie ? Vous avez une copie, vous ?
De quoi ?
De tout.
Alors, j'ai fait, effectivement, pour ne serait-ce que pour ne pas manipuler les manuscrits, longuement, j'ai fait des copies pour travailler dessus. Oui, puisque de mon côté, moi, j'avais décrypté tous ces inédits.
Donc, vous resterez celui qui...
Les héritiers n'en ont pas voulu.
Oui, mais voilà. Donc, vous serez celui qui pourrait demain, en quelque sorte, apporter un regard critique sur toute publication qu'ils en feront.
Oui, et ça, ils le savent parfaitement et ça les énerve. Et c'est pour ça que, par exemple, dans Guerre, j'ai pu montrer que plusieurs passages qui n'avaient pas été déchiffrés par celui donc, qui avait la responsabilité de cette transcription, il y a plusieurs passages que moi j'avais décryptés et que lui n'a pas su décrypter. Parce que peut-être parce qu'il y avait une question de temps. Je pense que tout ça s'est fait relativement vite. Moi, j'ai eu beaucoup de temps pour le faire. Et donc, j'ai pris le temps de revenir sur les manuscrits et de préciser des choses qui étaient effectivement difficilement lisibles.
Le fin mot de l'histoire, est-ce que ceci clôture le chapitre Céline ou est-ce qu'il reste encore d'autres mystères Céline, d'autres caves, d'autres malles, d'autres caisses ?
Alors, probablement qu'il reste d'autres choses, parce que dans Guerre, le pas tout à fait suppose qu'il y ait des choses qui précédaient ce pas tout à fait. Et ça, on ne sait pas où c'est. Ce qui fait que la piste, vous voyez que tous les Célidiens étaient sur une autre piste, qui n'était pas celle de Moranda, mais celle d'un Corse qui s'appelle Oscar Rosambi, qui avait été un temps comptable auprès de Céline et qui, sans doute, à la Libération, a fouillé lui-même l'appartement de Céline, avant que les mandats y aient accès. Donc, il se peut qu'il y ait dans la nature des choses que cet homme a pris, a peut-être revendu, on ne sait pas. En tout cas, les Céliniens travaillaient sur cette piste. Et cette piste, elle est sans doute intéressante à poursuivre. Et ça, c'est leur affaire.
Merci en tout cas pour ce moment rocambolesque de l'histoire qui se révèle ici aussi, grâce à vous, dans tous ces détails, puisque vous nous retranscrivez à la fois toute l'origine de la chose, mais aussi le contenu de la chose, et puis les difficultés à faire vivre cette chose dans ce livre, Jean-Pierre Thibaudat, L'affaire Céline, aux éditions Alia. Merci de nous en avoir donné le fin mot.
Merci à vous.